Seigneur, de nous rassembler ensemble pour nous réchauffer par ton amour, comme le disait Thibaut tout à l'heure. L'amour de Dieu est là pour nous réchauffer. Cette chaleur de l'amour, c'est celle que le Seigneur veut nous donner. Donc il nous fait désirer à travers cet hiver, qui est aussi agréable, bien entendu, il nous fait désirer la chaleur de l'amour, la chaleur de la charité fraternelle, de la fraternité. Alors demandons à l'Esprit Saint, comme nous l'avons fait sans cesse, lui qui est l'amour du Père et du Fils, de communiquer cette chaleur du cœur qui vient transformer nos cœurs et nous donner vraiment cet amour pour Dieu et pour les uns pour les autres. Alors, nous allons méditer l'évangile de Matthieu au chapitre 4, quelques versets qui commencent ce chapitre. Alors Jésus fut emmené au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Il jeûna durant 40 jours et 40 nuits, après quoi il eut faim. Et s'approchant, le tentateur lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais il répondit, « Il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors après son baptême, le baptême c'est vraiment le lancement de la mission de Jésus, où Jésus voit le ciel s'ouvrir et il reçoit l'Esprit en abondance qu'il a de toute éternité puisqu'il est le Fils, mais il reçoit particulièrement l'Esprit Saint pour commencer cette mission. Nous-mêmes nous avons sans cesse besoin de l'Esprit Saint pour faire ceci, pour faire cela. Le Fils reçoit sans cesse tout de son Père et en particulier l'Esprit Saint pour pouvoir vivre cette mission dans l'Esprit Saint qui va l'accompagner, par lesquels il va pouvoir opérer des miracles. Et c'est cet Esprit Saint qui conduit Jésus au désert. Alors, le désert, c'est le lieu où le peuple hébreu a lui-même été emmené pendant 40 ans, après la sortie d'Égypte. Le Seigneur l'a fait tourner pendant 40 ans au désert. C'est un lieu où il n'y a pas grand monde, évidemment, c'est le désert. C'est un lieu d'épreuve, mais ce lieu d'épreuve est un lieu aussi privilégié de rencontre avec Dieu. Il y a des lieux de la nature naturelle où, quelque part, la présence de Dieu est tangible. Quand vous promenez dans le désert, quand vous allez en montagne, quand vous allez dans la mer, la grandeur de la nature, la magnificence de la nature, nous parle de Dieu. Je pense que c'est difficile de vivre au désert et d'être athée, parce que le désert nous parle immédiatement de Dieu. Les Bédouins, ce sont des gens souvent qui sont très religieux. Ils voient Dieu dans le désert, ils le sentent. Donc le Seigneur part au désert et, guidé par l'Esprit Saint, pour vivre ce combat avec le diable. Il part au désert pour vaincre le diable, que Jésus appelle aussi le prince de ce monde, qui, rappelez-vous, avait vaincu Adam et Ève, et qui depuis règne sur ce monde. Le prince, le diable lui-même, se vante d'être le maître de ce monde, puisque les hommes sont animés de concupiscence pour l'argent, pour les plaisirs, par orgueil, par vanité, par jalousie, tout ce qu'on veut. Le diable les manipule comme des marionnettes, comme il veut, ceux qui ne mettent pas leur foi dans le Seigneur. Donc le Seigneur est parti vaincre le diable qui a pris possession de l'humanité, parce que l'humanité s'est livrée à lui, corps et âme, si j'ose dire. Et pour vaincre le démon, il commence par jeûner 40 jours, pour rappeler ces 40 ans qu'ont passé le peuple hébreu au désert, pour offrir cette situation de pauvreté au Père, pour vivre ce temps d'épreuve, où il accepte de se priver pendant 40 jours de nourriture, pas d'eau, parce que c'est impossible de ne pas boire pendant 40 jours, mais on peut, pour un homme de son âge, on peut très bien ne pas manger pendant 40 jours, ça c'est tout à fait possible. D'autres personnes l'ont fait, des saints et même des personnes qui ne sont pas saints arrivent aussi à jeûner 40 jours. Donc il vit ce combat et il ne jeûne pas simplement pour faire un exploit ascétique, pas du tout pour ça. Il jeûne pour être complètement donné à son Père et vivre ce combat. Et au bout de 40 jours, le diable s'approche de lui, donc on peut penser qu'il a faim, le Seigneur, 40 jours de jeûne. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Écoutez bien cette parole, si tu es fils de Dieu. C'est une provocation. Jésus est fils de Dieu, mais si tu es vraiment fils de Dieu, si tu es vraiment ce que tu dis être, si tu as la puissance de Dieu, dis cela. C'est une provocation. Provocation qui joue quoi? Qui joue sur l'orgueil. Si t'es ceci, fais cela. Cette provocation, elle reviendra sur la croix. On lui criera, si tu es le Messie, descends de la croix, puisque tu prétends être le Messie. Une provocation où, en fait, on veut obliger Jésus à utiliser cette puissance divine qu'il possède, puisqu'il est fils de Dieu, pour lui-même, pour se défendre. Mais ça, c'est vraiment pervers, parce que le Seigneur n'utilise jamais dans les évangiles sa puissance divine pour se défendre. Il n'utilise jamais la puissance divine pour se défendre, jamais. Le Seigneur utilise sa puissance divine pour nous guérir, pour nous sauver, pas pour se défendre. Et le diable essaie, en fait, de séparer Jésus, le Fils, de son Père. Il essaie de tuer la filiation divine de Jésus. Évidemment, c'est impossible, mais il attaque quand même, et Jésus, quand même, ressent une vive attaque du diable, psychique, spirituelle, comme une tentation, et qui est pour lui très lourde à porter. Vous savez, une tentation, c'est quelque chose qui nous attaque, mais comme le livre de la Genèse le montre bien, quand il parle du diable qui tente Adam et Ève, c'est une attaque qui vient nous obséder. Une tentation, c'est quelque chose qui vient nous obséder. Si ça passe juste à côté de nous, elle nous frôle, c'est pas vraiment une tentation. Une tentation, c'est quelque chose qui nous attaque, qui vient nous obséder, qui vient prendre notre conscience et on se dit, si je fais pas ça, je vais être vraiment malheureux, je vais vraiment souffrir, donc il faut absolument que je le fasse. Ça, c'est une tentation, souvent. Quand on n'est plus libre, quand on est comme capté, voilà, on est séduit. Le diable est très intelligent. Il est beaucoup plus intelligent que nous. Il n'est pas plus intelligent que Jésus, bien sûr, mais beaucoup plus intelligent dans l'ordre du mal que nous. Et il sait très bien quelles sont nos faiblesses et comment nous faire un petit croche-pied pour nous faire chuter. Et alors le Seigneur nous montre le chemin pour répondre, pour résister à ces attaques du diable qui n'épargne strictement personne sur cette terre. Il vient vaincre d'abord à notre place, pour nous. Il vient gagner cette victoire qu'il nous donne si ensuite nous mettons notre foi en lui et nous acceptons de vivre le combat avec lui. Et pour répondre aux tentateurs, le Seigneur utilise la parole de Dieu. Cette parole, elle est efficace et toute puissante. Il prend cette parole dans le livre du Deutéronome. C'est une parole que Dieu a donnée à son peuple quand il était au désert, justement. Et cette parole, c'est « Ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc le Seigneur Jésus utilise cette parole du Père, cette parole divine, pour résister aux tentateurs, et cette parole a une efficacité telle qu'elle est capable de faire obstacle à la parole du tentateur. Saint Paul parlera du glaive de la parole. La parole, c'est comme un glaive spirituel qui nous aide, la parole de Dieu, qui nous aide à répondre au diable, et pourvu que cette parole, nous l'utilisions dans l'Esprit Saint, parce que le diable aussi, il sait très bien utiliser l'Écriture. Il connaît l'Écriture et il va même l'utiliser pour tenter Jésus. Mais lui, il le fait en déviant le sens de l'Écriture. On peut très bien utiliser l'Écriture contre Dieu. Mais il faut utiliser l'Écriture avec l'Esprit Saint, avec l'amour du Père, avec la lumière du Père, ce que fait le Seigneur. Ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ainsi, le Seigneur vint cette première tentation que nous vivons nous-mêmes aussi, à savoir que c'est la tentation de l'individualisme dans lequel notre société tombe, est à plein, quoi, ce péché de l'individualisme. Moi d'abord, les autres ensuite. Il faut, si je dispose du pouvoir, je vais d'abord l'utiliser pour moi. Si j'ai de l'argent, ce sera d'abord pour moi. Si je suis fort, ce sera d'abord pour moi, puis les autres peut-être après, on ne sait pas. Voilà. La tentation du « pour moi d'abord » et la tentation aussi de ne pas écouter la parole de Dieu, de l'indépendance totale par rapport à Dieu, de nous séparer de Dieu. Si cette tentation est terrible, parce que le diable le sait, elle nous conduit dans la mort spirituelle, c'est-à-dire en enfer. Cette tentation, si on y succombe et si on y reste dans ce péché, il nous conduit en enfer, alors que celui qui voudrait prendre du pain et pas écouter la parole de Dieu, ce qu'il veut, c'est le bonheur. En captant le pain qui symbolise tous les plaisirs humains, eh bien, on veut capter le bonheur. Comme on disait du temps des Romains, les empereurs romains donnaient du pain et des jeux au peuple pour que le peuple puisse, comme ça, ne pas s'occuper de vouloir renverser l'empereur. Et comme ça, il était asservi au pouvoir de l'empereur. On lui donnait des jeux et du pain. Voilà. Comme ça, il était tranquille. Les gens fermaient leur bouche. Mais le Seigneur, justement, lui veut nous libérer, nous donner cette parole divine qui est une parole de libération. Et Jésus dira aussi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Alors la question que nous pouvons nous poser, c'est nous, bien sûr, nous avons besoin de pain matériel, mais quelle est notre vraie nourriture? Qu'est-ce qui est plus important pour nous? La parole de Dieu, ou d'aller manger un steak frites, je ne sais pas où, ce qui est d'ailleurs peut-être très bien, mais qu'est-ce qui est plus important pour nous? Est-ce que nous voulons nous nourrir de cette parole de Dieu, qui est une parole qui guérit, qui nous libère, qui nous donne la vie? La question est posée, et chacun, nous y répondons personnellement, par notre vie. Alors maintenant, je vais donner quelques témoignages, parce que le Seigneur continue son œuvre. Alors, pas tous les témoignages, comme vous avez dit tout à l'heure, quelques témoignages qui sont à chaque fois nouveaux, que quelques personnes ont bien voulu nous faire remonter. Alors, Géraldine, qui m'a envoyé une lettre, que je vais vous lire partiellement. J'ai découvert la prière des malades grâce à un article dans un journal distribué dans une boulangerie de Normandie près de mon village. C'est pas mal, ça. J'étais d'autant plus intrigué que j'ai habité 6 ans à Paris, à 100 mètres de l'église Saint-Nicolas-des-Champs, sans y être jamais rentré. Et je décidais alors de m'y rendre au plus vite. Une série de coïncidences a facilité ma venue et j'étais particulièrement ému et bouleversé par cette première visite, le 25 septembre 2014. Donc elle était venue prier pour elle-même, pour son couple. Et donc, après une crise de couple qui s'est résolue au-delà de mes espoirs, suite à la recommandation d'une religieuse, j'ai souhaité retourner à Saint-Nicolas-des-Champs en signe de reconnaissance et je m'y suis rendu le jeudi 12 mars 2015. D'abord, les témoignages m'ont touché, notamment celui d'une femme, trouvant que ses épreuves n'étaient pas grandes comparées à celles des autres. Voilà, je passe quelques lignes. Après l'annonce de plusieurs guérisons, une parole de connaissance a dit que 3 personnes souffrant de migraines récurrentes étaient guéries. J'ai été interpellé car c'était mon cas, même si je n'avais pas du tout pensé à cela pendant la prière, puisque cette fois j'étais venu pour remercier et essayer de penser aux autres plus concrètement. Depuis cette parole prononcée il y a maintenant plus d'un an, puisque c'était le 12 mars 2015, donc ça fait maintenant presque 2 ans, mes maux de tête ne m'ont plus empêché d'avoir une activité professionnelle normale. Donc si elle n'avait plus d'activité, si avant il n'y avait pas une activité professionnelle normale à cause de ces maux de tête, ça devait être très douloureux. Donc mes maux de tête ne m'ont plus empêché d'avoir une activité professionnelle normale. Mon corps est redevenu plus vigoureux et je peux à nouveau porter des charges sans y penser. Si j'ai ressenti encore quelques symptômes, ils ont été bien moindres et de plus en plus rares, et je pressens leur disparition totale. Cette expérience m'a fait prendre conscience encore plus concrètement, au milieu de cette assemblée pleine de ferveur, de notre vulnérabilité à tous, et du refuge que nous pouvons trouver ensemble et chacun auprès de Jésus. Après l'invitation faite pendant la prière, j'ai décidé de me confesser. Voilà, Géraldine. Alors, un autre témoignage. Alors, bonjour, je m'appelle Maria. Je voulais juste signaler et rendre grâce. Le jeudi 21 janvier 2016, je suis venu à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs pour la 3e fois à peu près. Une parole de connaissance qui a dit « Une femme a été guérie de ses maux de dents dont elle souffrait depuis quelque temps ». À ce moment-là, le Seigneur se promenait dans l'église. Depuis, j'ai compris que c'était moi. Cela fait 1 an. Et j'ai pu constater que la gêne que j'avais après une opération des sinus se sont arrêtées. Merci Seigneur, Maria. Voilà, le Seigneur lui a enlevé ces maux de dents qui étaient consécutifs à une opération qu'elle avait depuis 1 an. Alors, un autre, cette fois-ci, c'est un mail que j'ai reçu. Donc, je m'appelle Thérèse. Je vous raconte cette belle histoire qui m'est arrivée. Je voulais la partager à tous les fidèles. C'est la première fois que je venais à Saint-Nicolas-des-Champs. À ma grande surprise, Dieu a guéri mes yeux. Voilà 15 ans que je traverse l'hiver dans la peine, ophtalmo sur ophtalmo. Pour moi, l'hiver, c'est l'angoisse de mes yeux pleins et gonflés. Alors, le 24 novembre 2016, il y a une parole qui a été prononcée selon laquelle le Seigneur guérissait une femme qui souffrait de ses deux yeux. Alors j'ai dit, oh, pourquoi pas moi, Seigneur? Et puis j'ai rajouté, mais même si c'est pas moi, je suis content pour cette personne. Mais le 25 novembre, je suis sorti et le Seigneur m'a guéri. Je sais que Dieu m'a guéri ce jour-là. Je n'ai plus de problème à mes yeux. Merci au Seigneur, à toute l'équipe. Elle termine, je suis une femme timide. Ben oui, mais c'est pas grave, elle a quand même témoigné, Thérèse. Voilà, merci Seigneur pour cette guérison de Thérèse. Quelques autres témoignages, par exemple, Antoine, qui est médecin, qui avait un cancer de la prostate depuis 15 ans. Il est venu une fois à la prière des malades avec son épouse, et ensuite il m'a témoigné que 15 jours après, il a donc fait un IRM, et pour la première fois depuis 15 ans, il a eu la joie d'apprendre qu'il n'y avait plus aucune trace de cancer de la prostate en lui. Voilà. Antoine, que j'ai eu l'occasion de rencontrer cet été. Merci Seigneur pour cette guérison d'Antoine. Eugénie, qui était souvent étouffée par des scrupules intérieurs. Alors la maladie des scrupules, vous savez peut-être que c'est la maladie de Thérèse de l'Enfant Jésus. C'était aussi la maladie de Saint Ignace de Loyola. Donc, c'est une maladie qui peut vraiment être très 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 douloureuse. Donc, elle était étouffée par des scrupules intérieurs qui atteignaient beaucoup ses paroles et ses actes. Elle se sentait toujours coupable, quoi qu'elle disait, quoi qu'elle faisait. C'est vraiment très très dur. Et une parole de connaissance sur la guérison du scrupule. Et Eugénie, a pu constater dans les semaines qui ont suivi une modification très nette qui fait qu'elle se sent à présent beaucoup plus libre et heureuse sans vivre cette culpabilité permanente. Voilà, merci Seigneur pour toutes les œuvres que tu opères dans cette prière. Nous te demandons ce soir de continuer ton œuvre d'amour, ton œuvre de guérison, de consolation et de conversion. Amen.